Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21e siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du format que j'affectionne particulièrement, leur histoire de parents. Vous savez que c'est un format où en fait, je vais interviewer deux parents séparément sur une même chronologie, mais avec chacun, chacune, son point de vue. J'aime particulièrement ça parce que ça amène des réponses qui sont souvent très intéressantes, ça permet vraiment d'avoir le ressenti d'un côté et de l'autre. Et quand on les écoute, alors au début séparément, et peut-être qu'elles se rejoindront ces histoires un jour, ça permet vraiment de voir que parfois les ressentis sont vraiment très différents, que souvent on peut être très dur par ailleurs avec soi-même en tant que parent ou en tant que personne qui accompagne la parentalité. Vraiment, ça permet de resserrer les liens, de se rappeler qu'on a besoin de ponts là où on a plutôt tendance à bâtir des murs. Et ça me paraît vraiment très très important. Et c'est donc Benoît, papa de 4 enfants, père au foyer actuellement, qui va ouvrir cette histoire à deux qu'il a avec sa compagne Johanna. Et il va nous raconter un petit peu son parcours de papa, depuis son désir d'enfant à la première grossesse, et ainsi de suite jusqu'à vivre cette paternité telle qu'il la vit. C'est une discussion que j'aime beaucoup. Je remercie aussi Benoît parce que c'est aussi un auditeur du podcast qui me suit depuis le tout début et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai cet échange avec lui et avec sa compagne ensuite. Donc, je vous invite à découvrir son histoire. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Nous commençons tout de suite avec ma première question. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient ce désir d'enfant ? Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ? Bref, comment est-ce que tu en es arrivé là ? Je vous souhaite une très bonne écoute.
J'ai toujours voulu des enfants. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu. Même quand j'étais enfant, en fait, je préférais être avec des enfants plus petits que moi et m'occuper d'eux. J'ai un souvenir où justement, en fait, mes parents, ils travaillaient dans un bar quand j'étais petit, donc j'y étais souvent. Et il y avait un enfant de 3 ans qui pleurait pendant longtemps. Du coup, je suis allé le voir et j'ai commencé à jouer avec lui. Et après, au fur et à mesure, moi, j'avais une dizaine d'années. Ses parents, ils m'ont demandé si je voulais d'aller dormir chez eux pour jouer avec lui. Et du coup, j'avais accepté. Donc, j'aimais bien m'occuper des plus petits que moi.
Et ça, c'est quelque chose qui t'a suivi pendant ton adolescence et ta vie de jeune adulte ?
Oui, parce que j'ai toujours préféré être en fait avec des enfants parce que même déjà en étant enfant, je trouvais ça moins prise de tête que les adultes. Quand je voyais les adultes, ça se prenait la tête tout le temps. Je préférais être avec des enfants.
Et comment ça s'est présenté à toi alors quand vous avez décidé de... Déjà, comment ça s'est passé, la décision de faire un enfant ou pas ? Est-ce que c'est venu après mûre réflexion ? Est-ce que c'est venu comme ça ?
Non, c'est venu au feeling. En fait, on en a parlé sans vraiment parler. Et c'est arrivé, en fait, on a décidé d'arrêter le préservatif, donc d'un commun accord. Et après, elle prenait la pilule, mais elle n'était pas très régulière. Elle oubliait souvent de la prendre, de toute façon, sa pilule, c'était pas fait pour elle. Et après, c'est venu, mais ça a commencé par une fausse couche, en fait. La première grossesse qu'elle a eue, ça a été une fausse couche.
Ok, comment vous avez vécu ça ?
Donc, on a appris qu'elle était enceinte. Donc, on était content. Elle travaillait dans un centre de formation à Paris. Elle était formatrice de prothésiste angulaire sur Paris. Elle l'a dit à sa patronne, qui n'était pas vraiment OK. Elle n'était pas OK. Ça la mettait dans la merde, quoi. Elle pensait qu'à elle. Et on l'a dit assez tôt à ses parents aussi, et à son frère, du coup, aussi. Et en vrai... À son travail, comme aussi en personnel, ça, il y a eu des retours assez négatifs, en fait, parce que c'est son grand frère, où on a eu des messages comme quoi, mais c'est moi le grand frère, et c'est à moi d'avoir un enfant avant toi, ou tu vois, des trucs comme ça. Donc, psychologiquement, elle était vachement affectée. Donc, moi, j'ai fini par prendre les téléphones et dire, en fait, vous envoyez des messages à moi, vous lui parlez plus à elle, parce que ça commence à bien faire. C'est pas normal ce que vous dites, on trouve pas ça cool. Et enfin, je pense, moi personnellement, après, je sais pas si c'est ça, mais ça l'a tellement affecté psychologiquement que c'est parti en fausse couche, quoi.
Oui, ça doit être dur, ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est que dans sa famille, elle a un frère aîné qui a fait un foin parce que vous alliez avoir un enfant avant lui, quoi.
Ouais. En gros, pour simplifier, ouais, c'était ça. C'est le grand frère. Donc, dans l'idéal familial, c'est au grand frère d'avoir un enfant en premier, et tout ça, tout ça.
Et du coup, derrière, combien de temps après, est-ce qu'elle va retomber enceinte?
Bah, avec chance, très très rapidement au prochain cycle, en fait, au cycle d'après. Elle a fait une fausse couche au mois de février, je crois, il me semble. Donc, ouais. Aaron, il est né au mois de novembre, donc 9 mois avant, ça fait mars-avril, un truc du genre.
Comment tu t'es senti, toi, la première fois qu'elle t'a dit qu'elle était enceinte?
Pour moi, c'était une continuité. C'est pas... J'ai trouvé ça normal. Sur le coup, j'étais content parce que j'allais enfin pouvoir occuper de mon enfant à moi, en fait, mais c'était pas une euphorie énorme.
Quand tu me disais que tu t'adorais t'occuper des enfants et tout, je me suis dit que ça t'aurait peut-être fait une explosion de joie.
Non, parce que dans ma tête, c'était normal, en fait, dans ma tête, tu vois, c'était ouais, d'accord, enfin, en vrai, c'était enfin, quoi, voilà.
Oui, d'accord, ok, il y avait vraiment ce côté, c'est la suite logique, quoi.
Voilà.
Et du coup, quand après la fausse couche, quand elle te redit qu'elle est enceinte, là, comment tu le vis à ce moment-là?
En fait, je me dis, waouh, ouais, cool, parce que ça va nous éviter de trop y penser, en fait. On va pouvoir tourner la page beaucoup plus facilement de la fausse couche et de pouvoir se lancer sur la grossesse. Mais après, oui, je m'y attendais pas aussitôt, donc ouais, j'étais quand même très très content sur le coup.
Et alors, comment ça se passe, ce début de grossesse? Est-ce que tu te sens papa tout de suite? Comment ça se passe, la grossesse pour elle? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a beaucoup de nausées?
La grossesse facile, de souvenir, pas tant de nausées que ça. Elle prend pas beaucoup de poids. Elle a 6 mois de grossesse. Franchement, on dirait même pas qu'elle est enceinte, pratiquement. Après, moi, j'étais présent. Chaque rendez-vous qu'il fallait faire, j'étais là avec elle. Je quittais le travail, j'étais là avec elle. Il n'y avait pas de problème. Donc, j'étais présent sur la grossesse, mais j'étais quand même un peu détaché encore. Tu vois, je me disais pas, ouais, je suis père encore, je suis pas père, je suis pas encore père, quoi.
Alors, du coup, tu étais dans quel état d'esprit par rapport à ce soutien? C'était tu la soutenais, elle, et tu te projetais pas sur l'enfant? Vous aviez fait des choses comme l'autonomie ou quelque chose, peut-être?
Non, non. À cette période-là, j'avais 21 ans. Donc, je me suis laissé porter par la société, en vrai, sur tous ces trucs-là. J'essayais pas de me renseigner encore sur tout l'éducation bienveillante, sur l'avant-grossesse, après-grossesse, tout ça. Je vivais le moment. Donc, je touchais son ventre, je parlais au bébé, ça n'avait pas de problème. Mais l'autonomie en tant que telle, non, j'ai pas fait.
Mais bon, t'étais quand même en mode, je dois être présent, quoi. Donc, c'était plus par rapport à elle que par rapport au bébé, c'est ça?
Ouais, pour elle. Mais après, c'est comme je disais, moi j'ai toujours dit on est enceinte, tu vois. J'ai jamais dit elle est enceinte, c'est on, c'est à nous, c'est pas à elle.
Et comment c'est accueilli, ça? Parce que c'est pas une position hyper, hyper populaire, hein, qu'un mec dise on est enceinte. T'as plein de personnes qui peuvent te dire, bah écoute, tu dis on est enceinte, mais bon, toi t'as rien dans ton ventre, t'as pas
non,
les symptômes.
Ça c'est sûr. Après, ça reste une façon de parler, hein, mais oui, mais j'étais. Enfin, chaque rendez-vous, j'étais là, les échographies, j'étais forcément présent, je soutenais. S'il fallait aller à la pharmacie, c'était moi qui y allais, tu vois, donc j'étais impliqué déjà.
Et alors, toi, tu te sens comment? Est-ce qu'il y a une évolution pendant cette grossesse? Est-ce que chaque rendez-vous te permet de te dire, je suis encore un petit peu plus impliqué? Est-ce que tu te rends compte de choses? Tu vois, moi, par exemple, j'ai des souvenirs d'entendre le cœur du bébé avec vraiment beaucoup d'émotions. De voir le visage la première fois, tu vois, aux échographies. Et ça, c'est quand même, je trouve que... Enfin, moi, personnellement, ça me projetait sur quelque chose de plus en plus tangible, quoi.
À l'annonce du sexe, donc tu te projettes un peu plus à l'annonce du sexe, tu vois. Tu t'imagines des choses que tu vas faire avec l'annonce du sexe. Après, pas plus que ça. Comme je t'ai dit, en fait, je reste dans la même optique qu'au début. En fait, c'est tellement normal pour moi que j'ai pas d'émotion particulière sur ça. Comme je t'ai dit, je garde toujours ça. J'entendais le cœur du bébé, je voyais son visage, mais pour moi, c'était tellement normal que j'avais pas d'émotion particulière, en fait.
D'accord. Et ça, et pourtant, c'est des situations, si j'ai bien compris, que tu n'avais jamais connues avant. Je veux dire, tu n'as jamais accompagné
non, jamais.
D'autres femmes enceintes, amis,
non,
quoi.
Non,
ok.
Jamais.
Ok, parce que je me disais, tu vois, quand même, le côté découverte, ça peut être quelque chose qui va procurer de l'émotion.
Non, bah, après, dans les films, enfin, une échographie, je voyais ce que ça faisait, tu vois, comment ça se déroulait. Après, c'était mon enfant, c'était pour nous. Mais comme je t'ai dit, en plus, j'étais sur le côté, il faisait sur elle. Donc, j'avais. Émotionnellement, j'étais détaché quand même, je trouve.
D'accord. Et ça, tu trouves que c'est plutôt dû à toi ou dû à la façon dont c'était fait?
Non, dû à moi.
Et alors, comment ça se passe, arriver à la fin de la grossesse et arriver à l'accouchement?
Fin de grossesse, elle est déclenchée, donc elle est suivie. Mais en fait, quand on a les rendez-vous, ils se rendent compte que placenta calcifiée. Donc, placenta calcifiée, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il nourrit plus le bébé, quoi, en gros. Ça implique un déclenchement, en fait. Le bébé ne peut pas rester sans placenta dans le ventre et du coup, il faut le déclencher pour que le bébé sorte. Donc, ça a été déclenchement. Donc, après, vachement médicalisé, déclenchement, moi, j'étais à côté, je faisais rien. Donc, la première accouchement, ça a été déclenché à 37 SA, à la limite. Donc, déclenchement par tampon, il me semble bien. Et après, il faut attendre. Donc, comme c'est du déclenchement, les contractions, elles sont beaucoup plus douloureuses qu'un accouchement naturel. Donc, ça fait beaucoup plus mal. Après, il y a péridural. Et après, moi, j'étais un meuble. Donc, pendant l'accouchement, j'étais un meuble. J'étais sur le côté, personne ne me parlait. Je me rappelle avoir vu la... Je me rappelle plus. Il y a une sage-femme et une autre personne, là, pendant l'accouchement. Et bah du coup elle a appuyé sur le ventre pour aider à faire sortir le bébé. Ça m'avait choqué, j'avais envie de me battre avec elle, mais sur le coup bah j'ai rien fait parce que on nous dit pas que c'est normal ou que c'est pas normal, tu vois, c'est la première fois qu'on voit ça. On se dit si elle le fait c'est que, mais ça m'avait choqué, j'avais pas aimé. Mais moi j'étais à sa tête parce qu'il voulait pas, moi je voulais voir. Mais ils m'ont pas laissé faire, ils voulaient pas. Donc, parce que moi, ça m'a jamais dégoûté, en fait, de voir le bébé sortir. Moi, j'ai toujours voulu voir le bébé sortir. Donc, la première grossesse, on m'avait pas laissé, ils m'avaient mis à la tête, mais vraiment pas sur le côté, mais vraiment derrière le lit au-dessus, tu vois.
Ok, d'accord, ouais, fallait pas que tu vois le bas, quoi.
Ouais, voilà. Donc, on m'avait mis là, et puis Charvarin, hein, et puis j'attendais que ça se passe, quoi. Je la voyais souffrir, crier, avoir mal, et puis je pouvais rien faire. Donc, c'est pas un super souvenir pour moi.
Tu lui parlais pas non plus à elle?
Bah, j'essayais de lui tenir la main, j'essayais de lui parler, mais enfin, je voyais que ça servait pas à grand chose sur le coup, quoi.
Et donc, le bébé arrive?
Le bébé arrive.
Ça a duré combien de temps tout ça, tu te rappelles?
L'heure exacte, je pourrais pas te dire, mais ça a duré longtemps, hein, à partir du moment où ils te déclenchent à midi. Tu vois, ils ont déclenché à midi et il est sorti peut-être à 22h ou un truc, genre. Puis tout ça, t'es un meuble en fait, tu sers à rien, t'es là parce que t'es le père, mais. Ta présence, elle n'est pas valorisée, quoi. Le bébé est là, on me laisse couper le cordon, mais il l'emmène dans une autre pièce quand même pour faire les examens, parce qu'il avait dû avoir une insuffisance, enfin, il avait du mal à respirer, quoi. Après, il est revenu assez vite, mais moi, j'étais parti dans la pièce avec lui, je regardais ce qu'il faisait. Après, ils l'ont redonné, tété de bienvenue, et après, on est remonté en chambre, et c'est la seule grossesse où j'ai pu rester à l'hôpital, dormir la nuit avec eux, sur un siège.
Okay. Ah oui, t'as pas eu de lit, même en payant, vous pouviez pas avoir de lit?
Non, il n'y avait pas. Dans la maternité où on est, c'est des lits, c'est des chambres doubles déjà. Tu vois, t'as deux lits dans les chambres, et puis t'as juste un fauteuil qui s'incline, mais au moins, ça me permettait d'être là aussi.
Et qu'est-ce que tu ressens, toi, la première fois que tu prends ce premier bébé dans les bras?
Encore une fois, pour moi, c'est logique. C'est normal. Je le prends, je le prends dans mes bras. Je me suis pas mis à pleurer. Tu vois, j'avais pas une émotion extrême. Pour moi, c'était la suite logique, quoi. Tu vois, dès le début, c'est normal.
Ah, je suis quand même très étonné. J'ai l'impression qu'il y a un vrai détachement, tu vois, par rapport à.
Ouais.
Ben, au moment, quoi.
Ouais, non, mais oui, tout à fait. Mais pour moi, c'était tellement normal d'avoir un enfant que j'avais pas de. J'ai dû, sans doute, j'ai dû me faire des rêves, m'imaginer une vie quand j'étais enfant à passer ces moments-là. Du coup, ça m'a totalement, mais pour moi, c'était totalement normal.
Comment ça se passe, du coup, les premiers moments avec bébé?
Bah, les premiers moments avec bébé, il y a la première semaine à l'hôpital, on rentre à la maison. Et après, du coup, il dort avec nous les premières semaines. Mais comme on s'y connaît pas et qu'on est fatigué, la pédiatre nous dit mais Il faut le mettre dans son lit si vous voulez qu'il dorme. Du coup, ben, on l'a mis dans sa chambre et dans son lit. Donc, on a laissé pleurer. Du coup, assez un mois, il faisait ses nuits, quoi. On a suivi ce qu'on nous disait, quoi. On a suivi les professionnels. Mais après, ça s'est super bien passé parce que moi, j'étais au chômage. Donc, j'étais toujours à la maison. Donc, on était toujours deux, en fait, à s'occuper de l'enfant jour et nuit, en fait. Donc, il a été allaité peut-être 3 semaines. Donc, après, c'était en biberon.
C'était un choix de votre part ?
On a suivi, en fait. On s'y connaissait pas autant que maintenant. C'était un choix, mais pas plus éclairé que ça. En fait, il y a eu une difficulté 3 semaines. Et on nous a dit, on a dû lui dire, bah, vous avez plus de lait, en fait. Ça sert à rien de continuer. Et on est passé au biberon, quoi. Donc après, les biberons, ça me posait pas du tout de problème de me réveiller la nuit, de le changer, de lui passer les biberons, tout ça. En pleine journée, je le mettais sur le coussin d'allaitement et je lui donnais... On a même des photos où je me suis endormi avec lui sur le coussin d'allaitement. Moi, la bouche ouverte qui bave, tu vois.
C'est les meilleures photos, ça.
C'est ça.
Et toi, dans ce nouveau rôle, du coup, comment tu te sens ?
Je me sens bien. C'est fait pour moi, en gros. Pour moi, c'est fait pour moi. Je me sens bien à faire ça. Je pense que je l'ai tellement imaginé en étant enfant et comme je t'ai dit, c'était normal depuis le début. Il n'y avait rien de plus normal pour moi que d'avoir un enfant. Après, on avait encore une éducation, on suivait des schémas, mais pour moi, c'était normal. Je me sentais bien, quoi. Je me sentais à ma place.
Ok, tu parles d'éducation, justement. Vous étiez dans quel schéma en termes d'éducation quand l'enfant commence à grandir, à bouger, à...
Bon, on était dans le schéma classique à la française, hein. L'enfant qui crie ou qui veut pas te suivre, tu le tires par le bras, tu viens par là, il continue à pleurer. C'est tu m'obéis et c'est moi qui décide, quoi.
D'accord. Et comment ça se passait du coup à ce moment-là ? Toi, tu te sentais comment quand tu avais ces comportements-là avec les enfants ?
Je faisais pas autant que j'ai eu. En fait, tu vois, c'était quand tu es vraiment. T'as un enfant il avait 1 an, peut-être il veut plus avancer, et du coup, il faut que je parte parce que je suis pressé, du coup, je le prends par le bras énervé, je lui parle méchamment, tu vois. C'était des trucs comme ça, mais on n'est pas allé jusqu'à le taper. Il y a dû avoir des petites fessées quand même, genre quand tu fais une bêtise ou tu tapes sur le cul, mais c'est pas allé plus loin que ça, tu vois.
Et toi, du coup, quand t'avais ces comportements-là, tu ressentais quoi ? Est-ce que tu te disais quelque part. Est-ce que tu disais que c'était normal aussi ? Est-ce que tu disais que...
Je ne les questionnais pas.
Et donc l'enfant grandit, toi tu continues de t'en occuper ?
Je m'en suis occupé avec ma femme, parce qu'elle, en fait, entre-temps, elle a créé sa société. Elle était prothésiste ongulaire, mais du coup, elle était à domicile. Donc elle allait chez les gens. Sauf qu'elle n'a pas le permis, c'est moi qui ai le permis. Donc moi, pendant qu'elle avait son entreprise, c'est moi qui l'emmenais chez toutes ses clientes avec notre fils dans la voiture. Et mes journées, c'était ça. On emmenait ma femme travailler, quoi, avec le petit dans la voiture. Et moi, j'attendais dans la voiture quand c'était loin, j'attendais dans la voiture avec le petit, je le détachais, je le prenais dans les bras, je jouais avec lui jusqu'à temps qu'elle finisse sa cliente et après on repartait. Donc ça a été ça jusqu'à un an et demi à peu près. Parce que moi, j'étais au chômage jusqu'à 1 an et demi, puis après, j'ai recommencé à travailler. Donc, ça fait quand même presque un bon congé parental, tu vois.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ouais, ouais. J'aurais bien aimé moi aussi faire ça.
Sauf que j'étais au chômage. Mais je cherchais pas de travail à ce moment-là. Être honnête, hein, je m'occupais de mon enfant.
Et comment ça se passe la reprise du travail du coup au bout d'un an et demi après
Un an et demi, fallait financièrement, fallait que je travaille parce que le chômage ça allait finir. Tu vois, donc j'allais plus avoir de paye. Donc j'ai retrouvé un travail, mais pas dans la même branche où je travaillais avant. J'ai trouvé un travail en tant que vendeur sanitaire dans un magasin de bricolage à côté de la maison. Et ça s'est passé, nounou, hein, et notre garçon, il est parti chez la nourrice. Et puis, moi, j'allais travailler, j'allais le rechercher après quand je finissais de travailler et tout ça. Et ma femme, elle avait arrêté le domicile chez les gens. Elle faisait le domicile, mais à la maison.
Vous avez votre deuxième enfant quand le premier avait quel âge ?
2 ans et 10 jours.
2 ans et 10 jours, ok. Et donc, pendant ce temps-là, toi, tu as connu ce moment où tu t'es dit, tiens, c'est chouette de passer autant de temps avec un enfant, parce que maintenant, toi, tu es père au foyer.
Là, actuellement, oui.
Et est-ce que tu penses que cette expérience d'un an et demi à t'occuper de ton enfant, ça a été déterminant dans ce désir, ou c'est vraiment juste que c'était ta vision de la vie?
C'était pas forcément ma vision de la vie, c'est arrivé parce que on en avait besoin. Financièrement, c'était mieux que je prenne mon congé parental, et puis moi au travail ça se passait pas bien, donc je voulais quitter. En vrai, au tout début, mon congé parental, le premier congé parental que j'ai pris, c'était ma porte de sortie pour partir de là où je travaille. Donc je l'ai pas pris pour les bonnes raisons, entre parenthèses. Ça a été ma porte de sortie. Et après, une fois que je suis sorti, en fait, j'ai démissionné 3 mois après, parce que je savais que je voulais rester avec mes enfants.
Revenons à ce premier enfant, donc. Vous êtes dans cette éducation qui est plutôt à l'ancienne. Et à un moment, vous allez changer, c'est ça?
Du coup, pas à la deuxième, mais ça a vraiment changé. Moi, déjà, quand je gueulais ou même quand je revenais à mettre des fessées, je me sentais pas bien. Tu vois, au bout d'un moment, ça...
Ah ben, tu vois.
Mais après,
que tu te sentais pas bien.
Après, pas au tout début, pas pour le premier, tu vois. C'était après.
Ah ouais, pas au tout début, d'accord.
C'est à force, en fait, tu vois. Je commençais à le questionner à l'intérieur de moi-même et à me dire, en fait, ça me plaît pas de faire ça. Et après, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la parentalité pendant le confinement 2020.
Donc là, c'est votre troisième enfant, c'est ça?
Donc, troisième enfant, 2017. 2013, le premier, j'avais 21 ans. Le deuxième, 2015, j'avais 23. Après, 2017, j'avais 25. Et après, le quatrième, en 2019, où j'avais 27 ans.
Et là, vous t'intéressez à la parentalité dite positive, ouais. Au comportement proximo, etc.
Donc, j'ai pris mon premier congé parental... mon congé parental en 2017-2018, tu vois. Et déjà, là, je m'occupais des enfants, donc je m'occupais de la maison, je m'occupais des enfants, et voilà, je commençais, tu vois, tout doucement à rentrer dedans, tu vois. Mais après, ça a vraiment commencé au confinement, où on était tous à la maison, et on avait, entre parenthèses, plus le temps pour faire autre chose, tu vois, de chercher des choses. Parce qu'avant, on est pris par la vie, ma femme travaille, moi, je m'occupe des enfants, tu vois, surtout qu'ils étaient petits. En plus, mes deux filles, donc ma deuxième et ma troisième, elles ont 15 mois d'écart. Donc, quand la troisième, elle est née, ma deuxième ne marchait pas encore. Donc, tu vois, c'était dans le jus, tu vois.
Ah oui, non, mais je l'ai déjà exprimé dans le podcast, hein, mais pour moi, c'est à titre personnel, mais jamais je pourrais, jamais.
Après, la troisième, elle n'était pas prévue tout de suite. Pour nous, on s'est posé pas mal de questions sur le coup, parce qu'il y avait la pression de la société, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que 3 c'est pas trop, tu vois, donc on s'est posé des questions pour l'avortement en fait, hein. Donc on va être clair, donc on s'est posé des questions, et puis après en fait on n'a pas réussi, ça nous faisait trop mal au cœur, émotionnellement c'était trop dur pour nous, et on s'est dit en fait si elle est là c'est qu'il y a une raison, donc on va faire avec.
Et comment ça s'est fait la prise de décision? Donc là, ça c'était pour la troisième ou c'était... Et la deuxième, c'était prévu...
Deuxième, ouais, il y a 2 mois d'écart, deux ans et 10 jours pile poil entre les deux, de naissance à naissance. Donc,
et ça, c'était voulu ça?
On s'est pas posé la question, on s'est pas dit tiens, on veut faire d'enfants tout de suite. On a fait les choses et elle est arrivée, on s'est dit ouais, c'est cool. Parce qu'on voulait pas trop d'écart entre les enfants non plus. Moi, j'ai deux frères, on a 2 ans d'écart à chaque fois, tu vois. Donc ça fait pareil que mes enfants. Mais du coup, je voulais reproduire un peu le même schéma, tu vois, un petit peu inconsciemment aussi. Mais du coup, non. Après 15 mois d'écart entre les deux, non, c'était pas prévu. Là, quand elle est tombée enceinte, c'est en retour de couche, en fait. Elle avait 6 mois, la deuxième. Donc ça, c'était pas prévu. Elle était encore bébé. On s'est pris un coup de pression, hein, vraiment. On s'est posé pas mal de questions. Et du coup,
ça, c'était pour la troisième.
Ouais, pour la troisième. Et pour le dernier, c'est pareil que pour la troisième. Il est arrivé. Elle a pris rendez-vous pour une ligature des trompes chez une gynécologue. J'ai pris rendez-vous pour me faire une vasectomie. Janvier 2019, elle a pris rendez-vous. La gynéco, elle lui a dit non, pour moi, vous êtes trop jeune. Je ne vous fais pas une ligature des trompes. Je vous pose un stérilet. On attend vos prochaines règles et vous m'appelez pour qu'on pose le stérilet. Moi, j'avais déjà rendez-vous le 14 février pour mon premier rendez-vous pour une vasectomie. Donc, tous les rendez-vous étaient déjà pris. Et ces règles, elles, ne sont jamais arrivées. Donc, on l'a appris. Elle avait rendez-vous le 3 janvier 2019. C'était vraiment début janvier, elle avait rendez-vous. Donc, on est parti à Reims pour faire. on a su fin janvier, quoi, qu'elle avait pas ses règles et qu'elle était enceinte. Donc là, on s'est posé des questions aussi. Elle a pris le premier rendez-vous pour l'avortement. Donc on a pris rendez-vous, on était tous les deux dans la pièce, hein. J'étais avec elle, je ne l'ai pas laissée toute seule. Elle a pris rendez-vous avec le gynéco aussi pour prendre les médicaments, là, tu sais. Et puis finalement, elle a jamais réussi à prendre les médicaments aussi.
Ouais, parce que c'est particulier, parce que vous vous retrouvez avec une grossesse qui arrive à un moment où vous voulez vous stériliser.
Et finalement, on le garde, parce que encore une fois, trop dur émotionnellement, psychologiquement, d'avoir ça sur la conscience pour nous, hein. Je parle personnellement.
Non, mais tu fais bien. On précise, disons-le clairement, qu'il n'y a aucun jugement sur les personnes qui font le choix de l'avortement. Pas du tout. Hein,
c'est... Et en vrai, pour en être passé par là, je comprends que les gens puissent en faire. Tu vois, mais sauf que nous, on n'a pas réussi. Donc, on décide de le garder. Pareil pour la troisième. Finalement, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et du coup, moi, je fais mon rendez-vous le 14 février pour ma vasectomie. J'ai trois enfants, ma femme est enceinte du quatrième, j'en veux plus. Donc, je veux faire une vasectomie. Il a pas été relou, il a dit d'accord et il m'a pris rendez-vous 4 mois pile poil après, donc le 14 juin, pour faire l'opération. Comme il faut 4 mois de délai de réflexion selon la loi. Moi, c'est fait depuis 2019. Avant que mon fils naisse, tu vois. J'ai fait le 14 juin 2019, il est né le 20 septembre.
Ok, et ça va, ça s'était bien passé? Petite parenthèse vasectomie?
Non, bah, c'est super bien passé, ça fait pas mal. Après, j'ai des bleus à la suite au post-opératoire, quoi, c'est tout. Mais ça...
Moi, je vais y passer aussi, mais on attend, au moment où on enregistre, on attend la naissance de bébé 2. Et c'est vrai qu'on est un peu en mode, on va d'abord s'assurer que bébé 2 va bien, et après on arrêtera.
Non, on s'est pas posé la question, c'est vrai. On n'a pas pensé à si ça va bien ou pas, tu vois.
Et donc là, c'est la vie avec 4 enfants, quoi.
C'est ça. Et finalement, tu vois, le 4e nous a apporté un équilibre dans la famille.
C'est quelque chose qu'on a déjà dit hein, dans ce podcast. C'est quelque chose que Cécilia, Sévani sur les réseaux, avait déjà dit. Qu'elle avait trouvé ça finalement plus facile, plus fluide d'arriver à 4 enfants qu'avec 2 ou 3.
Non, mais c'est ça. Mais après, plus facile, peut-être pas. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, le plus gros changement, c'est quand tu passes de 0 enfant à 1 enfant. Donc, c'est là où tu deviens une vraie famille, tu vois. Donc, là, et après, tu rajoutes de la charge mentale et de l'organisation à avoir, en fait. Parce que tu as déjà l'expérience d'avoir un enfant. Donc, changer une couche, tu sais faire, tu vois. Tu as tous les trucs, tu sais faire sur un enfant. Donc, sur le deuxième, ça va être pareil, tout ça. C'est juste, tu te rajoutes de la charge mentale et de l'organisation à avoir en plus. L'avantage, c'est que il est né au mois de septembre 2019. Elle était en congé maternité encore. Et après, en tout début 2020, il y a eu le confinement. Sa première année, on était à la maison. Enfin, avant le confinement, quand même, elle avait repris le travail. Tu vois, un petit peu décalé, mais elle a travaillé à la maison. Donc, en fait, elle l'allaitait entre chaque cliente. Lui, il a été allaité 4 ans et demi. Hein. Enfin, 4 ans. On a arrêté, il y a 3-4 mois. Donc, et la troisième, elle a été allaitée 2 ans et demi.
D'accord. Ah oui, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même de gros changements entre les deux premiers et les deux suivants.
Ouais.
Est-ce que vous observez un changement dans la relation ou dans le lien que vous avez avec vos enfants entre ceux qui ont connu peut-être des gestes plus violents que les deux autres?
Ouais, enfin moi je vois. En fait, sur notre deuxième, on l'a eu. Et elle a repris le travail tout de suite. Et moi je travaillais, donc elle est partie directement chez la nourrice, elle avait 3 semaines, quoi. Pour moi, encore à titre personnel, je sens le manque de confiance en elle qui, tu vois. Je trouve que ça se sent. Elle a pas eu la dose d'amour nécessaire dès le début, tu vois, tout collé, tu vois. Et du coup, je trouve que ça se ressent sur le comportement. Après, c'est pas scientifiquement prouvé, tu vois. Mais...
Oui. C'est ton.
C'est mon ressenti.
C'est ton ressenti de parent.
C'est ça. C'est
ton ressenti de papa. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de reparler avec les plus grands des. Tu vois, tu parlais de fessées. Est-ce que vous avez eu l'occasion de revenir dessus? Parce que est-ce que déjà ces enfants-là se sont rendus compte que les plus jeunes, eux, n'avaient pas ces gestes-là ou pas?
Non. Parce que je pense qu'ils étaient trop petits, hein. Ils s'en souviennent plus. Après, je pense qu'ils ont des comportements qui sont dus à les comportements que nous on a eu face à eux. Mais consciemment, eux, ils s'en rendent pas compte qu'ils ont parce que ça s'est arrêté très vite. Hein. Quand Aaron, notre grand, il avait 5 ans et Mila venait de naître, il n'y avait pas de tape, tu vois. C'était vraiment tout au début, quoi.
Mais pour toi, il y a quand même quelque chose d'inconscient qui est dans les comportements qui est là.
Bah, par exemple, si je m'énerve, j'ose la voix, tu vois que mon grand, il se recroqueville, il a peur. Tu vois.
Alors que les autres, non.
Non. La deuxième aussi, un peu, mais après, de toute façon, même quand je hausse la voix, maintenant, je leur dis, c'est pas. Si je le fais, c'est pas contre vous, en fait. C'est moi, j'arrive pas à faire autrement, c'est pas vous qui. Tu vois, je leur dis. Donc, ils en sont conscients maintenant, ils me disent les choses, et des fois, ils me le disent. Après, je fais, oui, t'as raison, y'a pas de problème, t'as raison. Mais après, voilà, on essaye de réparer petit à petit, tu vois.
C'est bien, c'est déjà énorme, je trouve, d'avoir eu cette démarche. Enfin, tu sais, il y a plein de personnes qui ont 4 enfants et qui se disent « ça marche, ça a toujours marché comme ça, je ne vais pas m'en mettre en question. » Et puis basta, donc c'est vraiment très très fort de réussir à faire ce parcours-là, quoi.
Après, moi, tu sais, dans mon enfance, j'étais vachement… j'étais un enfant, pas abandonné, mais négligé, on va dire. Voilà. Mes parents, ils travaillaient souvent. On appelle ça un enfant négligé parce que je m'occupais de moi-même dès que j'étais plus petit, tu vois. Mes parents, ils étaient pas là, je faisais ce que je voulais, j'allais où je voulais, quand je voulais, tu vois. Et ça, dès la primaire. Dans cette éducation-là, j'ai la chance, j'aurais pu très mal terminer comme, tu vois, comme j'aurais pu être ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance de voir d'autres éducations autour de moi et de les questionner, en fait. Et qu'il n'y avait pas un adulte pour me dire, en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai pu me faire mon propre avis d'enfant sur des comportements que je voyais, tu vois. Donc, pour moi, ça a été une chance, en tout cas, être un enfant négligé, c'était pas une chance parce que ça fait des traumas, faut être clair. Hein. Contrairement à ma femme, où elle, c'était l'inverse, tu vois. Elle a été dans une stricte, tu vois. C'était le parent qui dit, tu fais ce que dit le parent. Moi, de ce que je vois en faisant le parallèle des deux éducations, moi, j'ai plus de facilité à questionner que elle, tu vois. J'ai plus de facilité à regarder, à voir et à changer, à me dire en fait ça me plaît pas, tout ça. Elle va en être consciente, mais elle va avoir plus de mal à le mettre en place, tu vois. Elle va laisser ses traumas prendre le pas plus facilement que moi.
Avant de finir, du coup, comment ça s'est passé les 3 autres accouchements? Ça s'est passé de manière aussi passive que le premier ou est-ce que on a carrément passé à l'accouchement à la maison?
On y était presque.
Ah.
Non, le deuxième accouchement, pareil, déclenchement. Donc, j'étais un meuble. Le troisième, on voulait un accouchement physio aussi. Donc, on était déjà dans le truc. On voulait un petit peu, mais déclenchement aussi. La deuxième et la troisième, ça a été suspicion de fissure de la poche des os. Bah, avec le recul, j'y crois pas trop.
Ah ouais, tu penses qu'il y a eu un arrangement de diagnostic pour...
Mais je sais pas si on était là en fait et enfin ouais c'est enfin parce que pour la troisième ma femme elle a fait une semaine d'hôpital à cause de ça et ça la rendait ouf et elle voulait se barrer du coup elle a signé un truc pour rentrer elle voulait pas rester à l'hôpital et contre avis médical elle est rentrée à la maison et du coup ils l'ont déclenché pour suspicion de fissure de la poche des os mais avec le recul que j'ai maintenant je suis pas sûr que c'était forcément obligatoire de faire le déclenchement tu vois. Et le troisième ça a été un accouchement physiologique où il y avait une doula avec nous. On voulait faire l'accouchement à la maison, mais avec les assurances, il n'y avait pas de sage-femme qui faisait à côté de nous et on s'était renseigné, il fallait payer 1 300 € pour l'assurance pour une sage-femme. Ça nous aurait pas empêché de payer, hein, je pense, mais il n'y a personne qui faisait à côté de chez nous, c'était trop compliqué de trouver. Du coup, on a fait appel à une doula et on a fait. Moi, quand elle m'a parlé de doula la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi cette connerie encore? Qu'est-ce que tu me fais? Et du coup, elle m'a emmené, elle avait pris un rendez-vous avec elle y allait. Et puis le deuxième, moi, je suis allé avec elle. Et puis du coup, après, à la fin du rendez-vous, je lui ai dit clairement, ouais, faut qu'elle soit là.
Cool. Et du coup, elle vous a accompagné, vous avez accouché en maternité?
Ouais, on a accouché en maternité et elle était là pendant l'accouchement. Et elle nous a accompagné avant la grossesse.
Et ça a changé la donne?
Ouais, psychologiquement, ça change la donne puisqu'on a fait un projet de naissance, tu vois, on a fait, la doula, elle était là et tout a été respecté.
Si tu avais, Benoît, un message que tu voudrais adresser à Benoît d'il y a 10 ans, qui vient de devenir papa, avec les croyances qu'il a sur l'éducation, sur tout ce qu'il peut penser, ressentir, qu'est-ce que ça serait?
Fais-toi confiance et n'hésite pas à remettre en question des schémas et des on-dits de la société qui ne te plaisent pas.
N'écoute pas la pédiatre.
C'est ça. Pas que, enfin, que ça, même les schémas. Et... N'hésite pas à trouver d'autres voies en fait, qui te paraissent plus en adéquation avec toi.
Merci beaucoup, Benoît.
Merci à toi.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.